contes et légendes d'Alsace, la légende de Sainte-Odile. Rarement en Alsace, on entend conter deux fois de suite de la même manière une légende bien aimée. Jamais deux fois de suite, on ne se baigne au même fleuve. Mais fleuves et légendes n'en ont que plus d'irrésistibles attraits et de grâces purificatrices. Résumons en ses principaux traits où les narrateurs s'entendent le mieux l'histoire de Sainte-Odile. Odile est née à Aubernais vers 626. Son père était Aldaric, duc d'Alsace, sous le roi de Franche-Hildéric II. L'eau du baptême n'avait guère adouci sa rudesse hautaine de chef franc. Apparenté à la famille de Pépin, il administrait pour les rois mérovingiens un large espace de sol. Âme superbe, impatiente, autoritaire, indomptable, brouillé pour des raisons administratives avec Saint-Léger et Saint-Germain, il en fit des martyrs. Sa femme, Béroswine, nièce de Saint-Léger, évêque d'Autun, et belle-sœur du roi de France, si résignée, si généreuse, fut la Clotilde de ce Clovis alsacien. Tous deux, depuis de longues années, espéraient un enfant. Or, un jour, en revenant de la chasse, le duc apprit qu'un enfant lui était né. « C'est un fils !» cria-t-il, transporté de joie. C'était une fille, et une fille aveugle. Indigné contre le sort, il ordonna que l'infortunée créature fût détruite. Mais la mère veillait. Elle remit son enfant à l'une de ses anciennes servantes. Les soins dont cette pauvre femme entourait le dépôt vivant qui lui était confié provoquèrent des soupçons, lesquels pouvaient venir aux oreilles d'Aldaric. Or, Béroswine avait une tante qui était abbesse du couvent de Balma, autour duquel devait s'élever l'esquiville de Baume-les-Dames, dans le comté de Bourgogne. Ce couvent lointain parut un refuge plus sûr. L'enfant y grandit parmi les prières et les chants des religieuses. Un jour, Saint Erard, qui évangélisait la Bavière, entendit une voix qui lui disait « Va au monastère de Balma, tu y trouveras une petite fille aveugle, tu la baptiseras en lui donnant le nom d'Odile et elle verra clair. » Saint Erard emmena avec lui son frère, Saint Ildulf, qui venait de fonder, sur le versant des Vosges opposé à Aubernais, l'abbaye de Montmoutier. Dès que l'eau, Saint toucha le front d'Odile, ses yeux s'ouvrirent à la lumière. Ils furent les plus bleus et les plus beaux du monde. Le saint bénit également le voile qu'Odile portait et qu'elle se jura de ne plus quitter. Aldaric avait eu d'autres enfants, quatre fils et une fille. Odile, qui rêvait de revenir à la terre maternelle, entra secrètement en relation avec le plus jeune de ses frères, nommé Hugues, qui avait déjà grand renom de bonté. D'accord avec sa mère, Hugues fit revenir Odile en Alsace, à l'insu de tous. Aldaric n'habitait plus Aubernais. Sa résidence de prédilection était le château qu'il avait fait bâtir sur les ponts rocheux des Vosges, projeté vers l'est, à l'endroit où s'était élevée une forteresse romaine. Un matin, il aperçut, gravissant la montagne, une jeune fille aux cheveux blonds et aux clairs yeux bleus. « Voilà, dit-il, une créature aimable et toute pudeur, heureux son père. » Hugues pensa, « Le moment est venu de révéler la vérité. Ah, mon père, c'est le premier-né de vos enfants. » Une fille pieuse et vraiment parfaite. Votre cœur vous a bien averti. » Hugues ne prononça pas un mot de plus. Le duc n'admettait pas qu'on lui désobéit en rien. Dans sa colère, il leva son bâton à pomme d'ivoire et l'abaissa sur Hugues qui tomba mort. Mais tout de suite, l'horreur de son acte l'accabla et courut vers sa fille qui déjà disparaissait dans la forêt et la suppliant de prier pour lui s'agenouilla devant elle. Dans la tendresse dont Odile l'entoura dès lors, il oublia peu à peu ses propres fautes. Il voyait avec tant de joie et de fierté sa fille retrouvée devenir la fleur esquisse de sa maison ducale. De jeunes seigneurs se présentèrent en foule qui prétendaient à la main d'Odile. Inquiète, elle exprima le souhait de retourner au couvent de Balma. « Oreste, je t'en prie, murmura la mère. Un prince de Germanie plus riche et plus obstiné que tous ses rivaux la demanda en mariage. Il s'insinua dans la faveur d'Aldaric. « Tu épouseras cet homme, » dit à Odile ce père tyrannique. « Je t'ordonne de l'épouser. » Odile répondit qu'elle n'aurait jamais d'autre époux que Jésus. Hérité d'une telle résistance, le duc pense en avoir raison par la rigueur et l'opiniâtreté. Odile, forcée de paraître à toutes les fêtes et de recevoir tous les hommages de la flatterie, n'était plus qu'une prisonnière dans le château paternel. Un soir, ayant compris qu'il ne restait plus qu'un moyen de salut, la fuite, elle réussit à ouvrir une porte dérobée et, vêtue de haillons, gagna la campagne. Elle marcha vers le Rhin dans la nuit déserte. Mais au château, on s'était aperçu de sa disparition. Le duc, accompagné du prétendant et suivi de quelques serviteurs, s'élançait à cheval sur sa trace. « Avez-vous vu ? » demanda-t-il. « Une jeune princesse qui traversait le fleuve ?»« Nous n'avons vu qu'une mendiante qui semblait brisée de fatigue. De quel côté allait-elle ? Vers Fribourg en Brisgau. » Le duc piqua des deux et la cavalcade reprit le galop. Au loin de Fribourg, Odile entendit le pas des chevaux et le cri des hommes. Elle se retourna et derrière elle reconnut son père. Devant elle se dressait une ligne de rochers, infranchissable. Elle était prise. « Mon Dieu » implora-t-elle, « je m'en remets à vous. » Alors, un des rochers s'ouvrit, la laissa passer et se referma. C'en était trop. L'âme inflexible d'Aïk plia sous ce miracle expressif. Tout bouleversé, il rentra à Olimbourg et fit annoncer au loin, par des héros d'armes, qu'il respecterait désormais la vocation religieuse de sa fille. Odile, prévenue, répondit qu'elle était prête à entendre son père. « Pardonnez-moi, ma fille, désormais, tu seras maîtresse de ton destin, à condition... »«
Achevez, mon père. »«
À condition que tu demeures au Nabourg. »«
Mon père, je demeurerai. »
Plus que jamais, Odile était résolue à se consacrer à la vie monastique. Le père eut encore un mouvement de courroux, mais ayant engagé sa parole, il mit son orgueil à édifier pour Odile un monastère incomparable. Son château de Nabourg fut transformé par ses soins en une abbaye véritablement princière, à laquelle il rattacha l'ample domaine qu'il possédait aux environs. Bientôt, à ce couvent de Honnabourg accoururent des jeunes filles également nobles que l'exemple d'Odile attirait. Odile leur apprit à passer des jours et des nuits dans la méditation des saintes écritures. Elle se réservait les plus cruelles mortifications, ne mangeant qu'un peu de pain d'orge, pas même à sa faim, n'ayant pour couche et couverture qu'une peau d'ours vosgien, pour coussin qu'une pierre frustre de la montagne. Sa maxime était de répandre sur les pauvres et sur les malades l'indulgence et la faiblesse qu'on a trop souvent pour soi-même. On devine que pauvres et malades ne manquaient pas au dévouement de la jeune sainte. Un matin, à la porte du monastère, un lépreux vint s'asseoir, mourant de faim. Personne n'osait l'approcher à cause de ses épouvantables plaies contagieuses. Odile, réunie sur un plat d'or des mets de choix, se glissa par la porte dérobée qu'elle avait jadis ouverte pour s'enfuir. Alla vers le lépreux et, le voyant si faible, lui donna à boire et à manger, comme à un enfant. Revenu à lui, il pleura.
« Hélas, répétait-il, je suis trop malheureux. »
« On n'est jamais trop malheureux, puisque Dieu est trop bon. » Ainsi lui répondit Odile, et elle l'embrassa. Ce fut, si l'on exalte son père et ses frères, le seul homme dont ses lèvres touchèrent le visage. Soudain, le lépreux apparut guéri. Vers cette époque de sa vie, Odile conçut une nouvelle inquiétude. Elle songeait aux malades et aux pauvres, trop épuisés, trop infirmes pour gravir l'âpre chemin du couvent.
« Il faudrait, se disait-elle, que le couvent descendît vers eux. »
Le couvent descendit. Odile fit construire dans la vallée au sud de la montagne une hôtellerie, entendez, un hôpital, avec une petite église sous le vocable de Saint-Nicolas. Tous les matins, elle allait visiter ses malades, réconforter ses pauvres, puis remontait l'âpre chemin du couvent, prenant sa fatigue cruelle pour la meilleure des récompenses. Elle fut la première sœur de charité en cette terre d'Alsace, d'où sont parties dans la suite, comme de la terre de Lorraine, autant de sœurs de charité que de soldats. Par un brûlant après-midi de juillet, au moment où elle arrivait au sommet de la montagne, elle rencontra un pauvre vieillard, étendu, sans connaissance, dans la poussière de la route. Quoi ? Pas une goutte d'eau pour le ranimer ? De sa main tremblante, Odile toucha le rocher voisin. Un flot pur en sortit. Le mourant était sauvé. Suivant une autre version de la même légende, ce vieillard avait pour lui un fils aveugle. La source de Saint-Odile rendit la vie au premier, la vue au second, le bonheur à tous les deux. Un jour d'hiver, le jeune homme, à qui Odile avait rendu la vue, demanda à être reçu par elle. Odile l'aperçut qui s'avançait, timide, mais souriant, et la regardant de tous ses yeux. Sous son manteau, il cachait un objet dont elle reconnut tout de suite la forme. « Permettez-moi, lui dit-il, de vous offrir une croix de bois que j'ai faite moi-même. » Elle prit la croix qu'il lui tendait et le remercia de ce don le plus cher qu'elle put recevoir. Mais tout à coup, elle poussa un cri. Sur le bois, avec une habileté et une patience merveilleuse, étaient gravées quelques-unes des plantes les plus belles de la forêt. Au sommet, les fougères dressaient leurs fines palmes dentelées. De chaque côté, les bruyères étageaient leurs grappes délicates. Au bas, les myrtilles, touffes menues, gracieuses, se pressaient pour offrir leurs fruits pareils à de modestes grains de raisin noir. Saint Odile ne pouvait se lasser d'examiner ces césures à la fois si naïves et si vraies. « Cela vous fait plaisir ? » demanda-t-il, avec une telle effusion de joie que sa voix tremblait. « Il me semble, répondit l'abbesse, que l'âme de la forêt respire et prie sur cette croix. « Oh, dit-il, j'ai voulu seulement vous prouver que les yeux ne sont pas des ingrats. » Près de l'hôpital se fonda un second monastère, Odile appela le monastère d'en bas. Lorsque Aldéric et Bereswyn, très avancés en âge, sortirent leur fin prochaine, ils se retirèrent au monastère d'en haut, près de l'abbesse, leur fille, pour achever de vivre sous sa direction. Bereswyn mourut, et 9 jours après, Aldéric. Odile ferma les yeux à tous les deux. Cependant, Odile demeurait dans l'inquiétude. « Hélas, murmurait-elle sans cesse, mon père a-t-il trouvé grâce devant Dieu ?» La pieuse fille songeait à tout le passé du vieux duc, priait et pleurait. Dans la chapelle où elle s'agenouillait, ses larmes tombant une à une, creusèrent le rocher. Il n'y avait au couvent que 3 chapelles, celle où était enterrée Aldaric, celle des larmes, et tout à côté, celle des anges. Une nuit, Saint Odile vit Saint Jean-Baptiste, qu'elle reconnut au saillon de poil de chèvre et au blanc bâton de pèlerin. « Je voudrais, lui dit-il, avoir au Hornimbourg une chapelle où je puisse faire halte. » Le lendemain, l'abbesse entreprit la construction du sanctuaire souhaité, lequel devait devenir l'église du couvent. Elle manda les plus adroits ouvriers, se plaisant à observer leur travail, les encourageant de ses éloges, les soutenant de ses oraisons. Un soir qu'elle regardait une énorme voiture de pierre, traînée par 4 grands bœufs montée lentement vers le sommet, Odile, soudain, devint pâle comme une morte et tomba à genoux. Le sol de la route avait manqué sous une de ses roues et la voiture avec son attelage roulait dans l'abîme. Après avoir invoqué ardemment la bonté du Seigneur, elle rouvrit les yeux. Au fond de l'abîme, les bœufs, agenouillés mais sans blessure, broutaient l'air. Sur un signe de la sainte, ils se relevèrent, reprirent leur marche en serrant de plus près la rampe et avant la nuit complète, les pierres qu'ils transportaient étaient à pied d'œuvre. Les prières, les travaux, les jeûnes, toutes les fatigues épuisèrent la sainte abbesse. Dieu lui accorda la faveur de prévoir le moment exact de sa mort. Ainsi avertie, elle se fit porter le 13 décembre 690 dans la chapelle de Saint-Jean. « Vous prierez pour les miens ?» dit la mourante. Ensuite, elle réclama le calice, prit elle-même le saint viatique et rendit l'âme. D'aucuns affirment que le calice lui fut présenté par un ange. Ce calice, fait d'un métal inconnu, a été conservé au Hornimbourg jusqu'au XVIe siècle, puis placé dans le trésor épiscopal de Saverne, d'où pendant la guerre de 30 ans, il disparut, volé. Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.